Le soleil est enfin arrivé dans ce studio. Bonjour Nechama Tawil.
Je sais pas si vous étiez dehors, mais le soleil ne s'est pas encore réveillé.
Si, si, mais il est là, devant moi. C'est vous que j'annonçais.
Il est
comme
habillé
ça.
De noir.
Ah, bah oui, mais c'est pas grave.
Vos cartes, Didier.
Ne vous éclipsez pas tout de suite, cher Nechama. Dites-nous tout. Aujourd'hui, on va parler de quoi exactement?
Alors, la semaine dernière, on a parlé cache-route, Didier.
Ah, sans blague.
Ah oui, absolument. Et en plus, je dois vous avouer que j'ai jamais eu autant de retours sur une chronique.
D'accord.
Donc,
tout le monde s'est moqué de moi, évidemment.
Non.
Parce que,
non,
parce que j'y connais que dalle.
Mais non, au contraire, on me disait que c'était important d'en parler, que
bien
j'avais
sûr.
Attendu 3 ans avant d'ouvrir ma
d'accord.
bouche. Et donc, il fallait y aller. Donc, on s'était dit qu'on allait un petit peu continuer là-dessus, qu'on allait aussi parler du Halabeik et
oui.
d'autres événements. Donc, on y va doucement, doucement. Donc, Didier, la semaine dernière, on a parlé de la cache-route.
J'ai retenu plein de choses, vous pouvez m'interroger, je suis incollable.
Dites-moi.
Ah non, à vous de poser des questions aussi, hein,
alors,
chacun bosse.
quels sont les animaux qu'on a droit de consommer?
Alors, les sabots fendus. Et alors, pour ce qui concerne les poissons, c'est écailles et nageoires.
Sabots fendus et autre chose.
Ah oui, voilà.
Voilà. Alors, il faut qu'ils ruminent et qu'ils aient
ah
les sabots
oui, c'est
fendus.
Ça, c'est voilà. ça, les
il
ruminants.
Il faut qu'ils aient les deux signes. Parce
moi,
que
il me reste plus qu'à fendre mes sabots et je serai personnellement
non,
caché.
Absolument
parce
pas.
Parce que j'arrête pas de ruminer, paraît-il.
Non, non, non. Alors, il faut que ces animaux aient les sabots fendus et ruminent à la fois, qu'ils aient les deux signes. Et ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est allez juste chez votre boucher cachère, vous aurez de la viande cachère et puis comme ça, vous ne prendrez plus beaucoup la tête. Pour les poissons, on avait parlé, vous venez de le dire, quels sont les deux signes du poisson?
Les écailles et les nageoires.
Bravo, les écailles et les nageoires.
Enfin, donc, les nageoires, en général, pour un poisson, c'est assez utile quand même.
Oui, exactement. Donc, le bar, la dorade, le saumon, voilà, plein de poissons, le cabillaud, plein de poissons excellents. On a aussi dit que quand on cuisinait, on devait cuisiner les produits lactés et les produits carnés.
Et j'ai retenu.
Dites-moi.
Après le lait, on se rince la bouche, on peut manger de la viande.
Ça vous a marqué,
mais
ça.
Après
hein.
la viande, il faut attendre 6 heures.
Voilà, et ça vous a marqué cette histoire. Exactement.
Parce que le cheesecake, 6 heures après le repas, moi.
Non, on peut le manger en entrée, et donc comme ça, on est tranquille. Bah,
ah,
oui, c'est une idée. Moi, c'est ce que
pourquoi
me disent mes enfants. Hein. Commence par le cheesecake, maman, comme ça on est tranquille. Et puis après, je sais qu'ils sont... Parce que sinon, vous savez, vos enfants ne veulent juste pas manger de la viande.
Oui, d'accord.
Parce qu'ils ont peur de rater le dessert, d'accord? Donc vous dites, voilà, différemment. Alors, on a aussi dit que quand on cuisinait les produits lactés, les produits carnés, on les cuisine dans des batteries de casseroles différentes.
Absolument.
C'est important, d'accord? Alors, pas tout le monde a 2 éviers, mais par contre, il faut absolument... Ben, ne pas mettre sa vaisselle de viande et sa vaisselle de lait à laver ensemble. Sinon, ça ne va pas. Donc, vous lavez d'abord. Donc, il y a des gens qui ont parlé.
J'ai quand même une question.
Oui,
alors,
dites-moi.
Vous allez me dire, évidemment, on sort du cadre religieux, on arrive dans l'hygiène. Si je comprends bien le fait qu'on ne mélange pas le lait à la viande pour des raisons de digestion, etc., tout ça, c'est scientifique, je vais dire. Mais au niveau de la vaisselle, les vaisselles, on les nettoie, c'est donc stérilisé d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mélanger les assiettes?
Alors, non, c'est une excellente question. Vous savez, j'ai des amis qui viennent souvent dîner chez moi à Shabbat et le mari est extrêmement intolérant. Et donc, il est intolérant au lactose, il est intolérant au gluten. Notamment, et vous savez, Shabbat, on fait de la challah, etc. Mm-hmm. Et donc, sa femme me dit, fais attention à la cross-contamination.
C'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une tôle dans mon four dans lequel j'ai fait de la challah et le papier sulfurisé est impeccable, puisque quand je retire ma challah, le papier est impeccable, si je veux poser, par exemple, mes pommes de terre, je ne peux pas. Parce que ça s'appelle la cross-contamination. Comme j'ai déjà cuisiné de la challah dessus et que le papier sulfurisé est poreux, je ne pourrais pas faire les pommes de terre pour ce monsieur puisqu'il est extrêmement intolérant
d'accord.
au gluten. Et j'aime bien prendre cet exemple, Didier, puisque c'est exactement le concept de la cache-route. C'est-à-dire qu'on estime qu'à chaud, il y a ce qu'on appelle de la cross-contamination. Mm-hmm. Et donc, à partir du moment où vous avez une vaisselle en porcelaine qui est donc poreuse, où vous avez mangé un repas de viande à chaud, cette vaisselle devient viande de facto. Et
okay.
donc, à cause de la cross-contamination, vous pouvez passer votre journée à la laver, ça ne change rien. Elle devient viande. L'ustensile lui-même devient viande. La seule matière qui n'est pas poreuse, c'est le verre vert, donc complètement vert. Et donc là, vous pourrez éventuellement utiliser
mélanger
du verre.
Mélanger le même évier, alors.
Alors, voilà, exactement. Ou utiliser, voilà, mettre de la viande dans un pyrex, enfin, vraiment
tout
en verre.
Fait.
Et puis après, mettre du lait. Bon, on essaye de ne pas le faire quand même, puisqu'on se dit, bon, si déjà on a deux vaisselles, on va pas. Après, on se dit, mais attends, où est-ce que je l'ai utilisé? Avec quelle éponge est-ce que je le lave? Etc. Donc, c'est juste plus simple d'avoir deux vaisselles complètement
d'accord.
différentes.
Okay.
Mais en tout cas, l'idée de la cross-contamination existe scientifiquement parlant, puisque voilà,
bien
des
sûr.
Personnes qui sont très, très intolérantes le savent bien comme il faut. Et dans la cache-route, c'est exactement la même chose. On estime que quand un aliment a touché une vaisselle à chaud, il devient cet aliment et donc il ne peut pas être mélangé avec un autre aliment.
Mais j'ai la réponse à ma question.
Oui, oui, et j'ai eu énormément de réponses, Didier, notamment à cause ou grâce aux intolérances, c'est-à-dire que dans le groupe des personnes qui sont intolérantes ou très très fortement allergiques à des produits particuliers, on voit que ce que dans la halakha avait l'air complètement sortie de je sais pas où, eh ben en fait c'est complètement logique, hein. Moi j'ai gardé une petite fille qui était très intolérante aux poissons. Je me souviens, elle était
à l'iode, donc j'imagine.
Oui, et, je sais pas, c'était en tout cas les poissons. Elle pouvait pas manger de poissons et donc elle vient avec son Mr Freeze. Elle me dit est-ce que tu peux m'ouvrir le Mr Freeze? En fait, celui qui lui a ouvert l'a déchiré avec ses dents. Il venait juste de manger du poisson. Devant moi, elle a fait une crise allergique incroyable. Donc la cross-contamination existe, elle est forte. Et donc dans la halakha, elle va jusqu'à un 60e. Bon, après je vais pas rentrer dans les détails, mais donc il y a quand même des limites à la cross-contamination, mais voilà, ça existe. Et donc ce qui est important, c'est de savoir que la cache-route fait très très attention dans le détail. On n'a pas parlé des œufs, Didier, c'est intéressant parce qu'on a tendance à se dire les œufs c'est cachère, s'ils viennent d'un animal cachère, notamment de la poule, il y a pas de problème. Et il faut quand même faire attention à quand vous cassez votre œuf, vous vérifiez à l'intérieur du verre si il y a des taches de sang. En fait, très souvent, les œufs bruns, et c'est uniquement si vous regardez que vous le savez, il y a des toutes petites taches brunes à l'intérieur de l'œuf. Personne ne fait attention, tout le monde mange son œuf comme ça, etc. Mais dans la halakha, on ne peut pas manger une tache de sang qui appartient à l'œuf. Et donc, on doit jeter l'œuf jusqu'à trouver un œuf qui n'a pas de tache de sang. Et notamment les œufs blancs. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il faudrait que je m'en renseigne. Mais les œufs blancs ont très, très peu de taches de sang à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait un test avec des élèves. Je crois qu'on avait ouvert au moins 90 œufs avant de trouver une tache de sang. Alors que si vous prenez une barquette de 12 œufs bruns, sur les 12 œufs bruns, vous en aurez 6. Mais c'est sûr avec une tache de sang. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que très souvent, dans les magasins cachers...
Tache de sang est égale embryon, d'une certaine façon.
Absolument. Dans les magasins cachers, vous allez trouver des œufs blancs. Les gens vont, les magasins cachers vont vendre des œufs.
Il y a madame, j'ai une question.
Oui, dites-moi.
Alors, on a parlé de la viande cachère, sabot fendu et ruminant. La poule, pas ruminant, pas de sabot fendu.
Alors, on a dit que les volatiles étaient nommés dans la Torah. Donc, on dit en général.
Ils sont tous comestibles?
Non, ils sont tous autorisés. Oui, certains que non.
Par exemple, c'est quoi les critères?
Il n'y a pas de critères, justement. C'est uniquement les noms qui sont donnés dans la Torah. Donc, la poule, le coq, la dinde, le canard. Voilà, il y en aura plusieurs. Je ne peux pas tous vous les nommer. Mais en tout cas, il y en a certains qui ne sont. Par exemple, l'aigle n'est pas cachère. En général, c'est les volatiles qui sont plus carnivores, dans cette famille-là, qui ne sont pas autorisés.
Et une autre question, alors, n'y voyez pas du tout de la provocation de ma part, mais d'un autre côté, il y a 2000 ans, les poules, les canards, je ne sais pas, si c'était quoi, ça existait déjà ou
oui, ça existait déjà, absolument.
Ah, d'accord. Okay,
en tout cas, on estime que c'est les mêmes mots, on utilise les mêmes mots aujourd'hui pour les définir. Okay. C'est la même chose. Je voudrais juste revenir un instant sur l'œuf,
oui,
parce que
sûr.
C'est assez intéressant.
C'est votre chronique, c'est
pas la mienne. On raconte une histoire, l'histoire d'un porète, donc d'un chef de village, il y a 300 ans, c'est toujours, vous savez, en Russie, en Pologne ou ailleurs, en tout cas, qui a un de ses ministres qui est extrêmement haineux contre les Juifs. Et il lui dit, vous savez, tu sais, les Juifs, ils aiment le sang et ils tuent. Et tu sais pas ce qu'ils font dans la matzah. Ils tuent un petit jeune juif pour pouvoir... un jeune chrétien, pardon, pour pouvoir utiliser son sang dans la matzah. Bon, il raconte un tas d'histoires. Et le porète dit, non, moi, j'ai des amis juifs, ils sont incroyables, etc., etc. Et donc, il décide, bon, tu sais quoi, tu as peut-être raison, on va appeler un rabbin. Donc, ils appellent un rabbin et ils disent, qu'est-ce que tu as à répondre de ces accusations que les Juifs, justement, aiment tuer, ils aiment le sang, etc., etc. Et il dit, oh, rien, absolument rien. Il dit, c'est quoi, rien? Mais non, juste appeler la boulangère. Appeler la boulangère du village, la boulangère juive, bien entendu, qui a sa pâtisserie juive. Bon, ok, donc ils l'appellent, ils la font venir, elle est tremblante, elle se demande qu'est-ce qu'on veut d'elle, etc. Et ils disent, juste demander de faire un œuf au plat. Demandez-lui de faire un œuf au plat, regardez ce qui va se passer. Et donc, elle est toute tremblante, elle prend ses œufs, et puis, elle fait ce qu'elle fait toujours, c'est-à-dire qu'au lieu de casser l'œuf sur la poêle, elle prend un verre en verre, elle casse l'œuf dans le verre en verre et elle lève le verre en verre et elle le regarde. Et donc le porète lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu regardes quoi? Tu cherches quoi? Oh, elle lui dit, chez nous, on a une tradition chez les Juifs, on n'a pas le droit de manger du sang et sûrement pas une tache de sang dans un embryon, d'un œuf. Et donc, s'il y a du sang, je ne veux pas pouvoir me nourrir avec. Et donc le rabbin se retourne dans le porète et lui dit, tu connais déjà un peuple qui fait tellement attention à ce qu'il mange que même une tache de sang dans un œuf, il n'est pas d'accord de manger et tu penses qu'ils vont aller... meurtrir quelqu'un. Et donc la réponse était claire et donc tout le monde a rentré chez soi safe. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire, Didier? Parce que des fois, on se dit, mais oui, mais aujourd'hui, avec la technologie, on mange sain, on mange bio, on mange organique, on fait attention à ce qu'on mange, etc.
Ça, c'est une vue de l'esprit. Hein.
Voilà. Et le judaïsme dit, non. La cache-route, c'est la nutrition spirituelle. C'est vraiment poser de la présence dans ce qu'on mange, y faire attention, de la conscience, je dirais même. Mm-hmm. Puisque quand vous êtes devant votre plat, vous dites, attendez, c'est carné, c'est léché, où est-ce que je vais poser ça, etc. Et donc, vous êtes... Oh my God, j'attends. Vous posez vraiment de la conscience dans ce que vous mangez et ça fait partie vraiment d'une hygiène de vie et d'une hygiène de vie spirituelle, je dirais presque, puisque quand vous avez un aliment devant vous, vous allez vous dire, attendez une seconde, ce fruit, il vient de l'arbre. Alors, je vais faire telle bénédiction. Ce fruit, il a du gluten. Ah non, je vais faire mes onotes. Ah, cet aliment a du gluten, etc., etc. Et donc, les règles de la cache-route vont bien au-delà de ces petits détails qu'on connaît bien ou qu'on connaît pas assez bien peut-être, mais ils rentrent vraiment dans le cadre d'une manière de voir le monde et de se voir à soi, c'est-à-dire de poser de la présence, de la conscience dans ce qu'on fait. Alors, je vais conclure. Je vous l'ai promis la semaine dernière, par parler du Méga Halabek qui aura lieu le 5 février à 18h, qui est un événement exclusivement pour les femmes, dans lequel on attend plus de 500 femmes chaque année.
Pour quelle raison c'est exclusivement pour les femmes?
Alors, c'est vraiment...
C'est un choix délibéré.
Oui, c'est un choix délibéré. On voulait qu'il y ait une fois par an un événement annuel dédié à la femme, en fait.
Pourquoi
pas. Et why not? Et donc, cet événement tant attendu par les femmes aura lieu dans le magnifique Wiltshire's Hotel, hein, Steigenberger, j'ai du mal à dire son nom.
Oui, ben...
L'ancien Conrad pour les vieux Belges.
Voilà.
On aura...
La Stéphanie, en tout cas, à côté.
Exactement. On aura le Ballet Moran qui va nous faire une très belle représentation. Excusez-moi. Il y aura Sagit, la chanteuse exceptionnelle qui va chanter les derniers titres israéliens. Un buffet de toubichfat incroyable, on va bien manger. Et surtout, on va offrir un prix, on va dire.
La reine du Halabé.
Alors, almost, on aurait pu appeler ce petit truc. Ah, j'aurais dû vous appeler Didier. Non, on va appeler ça The Inspirational Woman of the Year. Voilà, et ce sera Linor Amias qui vient d'Israël, qui est volontaire dans un organisme qui s'appelle United Hatzalah, qui a énormément aidé lors de la crise de réfugiés ukrainiens, qui a sauvé des vies. Et donc, elle va nous raconter son histoire. On va avoir un petit film sur ce qu'elle a fait. On va lui remettre ce prix toutes les femmes ensemble. Donc, ce sera un très, très beau moment d'inspiration. Et surtout, Didier, on va ressortir avec... 500 kilos de tralotte dans les mains, ce n'est pas rien.
500 kilos de tralotte.
Voilà, donc prenez vos billets.
Qu'est-ce que vous allez faire du kilo qui restera après mon passage?
Ça, ce sera dans nos bourrelets. On va se faire un plaisir. Alors, n'hésitez pas à appeler Shulamit ou à appeler Batsheva pour réserver vos billets. Si vous prenez une table entière avec 10 personnes, ça vous coûtera 250€. Donc, prenez juste des tables et appelez vos amis IES ou vos filles. Et vraiment, ayez un bon moment. C'est un très, très beau moment de partage, Didier. On chante, on danse, on s'échange des recettes, on mange, on s'amuse vraiment bien. Donc, vraiment, prenez vos billets tant qu'il est encore temps. On a encore des places. Et venez nous rejoindre. Omega Halabek. Vous pouvez aussi rentrer dans le site ejcc.eu. On a le lien pour l'inscription Omega Halabek. Et d'ailleurs, le lien, Didier, a énormément d'autres événements autour du Holocaust Remembrance Day, donc de la Journée internationale de l'Holocauste, avec des événements organisés en partenariat avec la Commission européenne ou avec le Musée juif ou avec d'autres organismes. Il y a énormément de choses cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir nous voir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Voilà, mettez de la conscience dans votre assiette. Pensez à ce que vous mangez. Je termine par une petite publicité pour nos magnifiques traiteurs et magasins cachers de la ville. On a Geltov, on a Grilltov, on a Hamakom qui est un très bon traiteur et aussi une belle supérette avec beaucoup de produits cachers. On a Monsieur Biton de la Sisu qui s'est lancé en traiteur cachère aussi et qui est absolument délicieux. On a bien entendu Foodart qui est juste excellent. Et puis on dit merci à nos écoles juives, le Ganeno et Batavis qui servent bien sûr de la nourriture cachère et à la maison de retraite. Voilà.
Ah génial, ma chère Nechama, merci infiniment. Je vous souhaite une bien belle journée. Puis à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.